Donc bienvenue à cette exploration du thème du désir. C'est la troisième retraite sur ce thème. Soit vous étiez là ou peut-être vous avez écouté sinon le discours qui est en ligne, les discours qui sont en ligne. Et là, je voudrais en fait, c'est un thème dans lequel il est difficile de ne pas se perdre, je trouve. Je vois qu'à chaque fois que j'y réfléchis un peu, je pars dans une direction très différente. Et donc là, j'aimerais bien déjà repasser un petit peu sur à des endroits qu'on a déjà visités, à la fois pour ceux qui n'étaient pas là aux retraites précédentes, mais pour nous tous, de manière à essayer d'avoir une cartographie intérieure en fait de ce dont on parle et d'éviter un maximum de confusion. Toujours important pour moi de préciser que c'est un chantier, c'est pas quelque chose d'abouti, c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas quelque chose d'exhaustif. J'ai pas l'intention de parce que c'est la dernière retraite sur le thème du désir, d'avoir fait le tour, mais pas du tout. Mais c'est juste des endroits où ma pensée, mon expérience et mes réflexions m'ont mené et que j'ai envie de partager avec vous, avec l'espoir que ça génère suffisamment de questions pour que chacun mène lui-même des recherches. Et un endroit qui me semble nécessaire, auquel il me semble nécessaire de revenir encore et encore et encore, c'est à cette dichotomie qu'on peut avoir dans les enseignements entre le relatif et l'ultime. J'en parle régulièrement et ça crée énormément de confusion sur la compréhension qu'on a d'un discours, suivant d'où on l'écoute et d'où la personne qui parle en fait. Et si par exemple je regardais un petit peu sur ce que disait Thich Nhat Hanh du désir en survolant un petit peu. Et je voyais, par exemple, cette phrase, quand vous avez l'élément de colère, d'illusion et de désir en vous, vous attirez le danger en vous, vous créez votre propre souffrance. Et en fait, donc c'est tellement vrai et c'est tellement incomplet que ça trahit la complexité du désir. Et si on prenait ça comme une vérité complète, en fait, on a une image et on vit avec une image dans laquelle le désir est toujours problématique, alors qu'en fait, on ne peut pas vivre sans désir et que le désir est lui-même un mouvement de vie. Et il est parfois vu dans certaines traditions, dans certains enseignements, et je ne dis pas ça dans le cas de Thich Nhat Hanh, qui aussi a grande révérence pour le désir dans d'autres discours, mais d'où est-ce qu'il parle à ce moment-là? Et c'est ça qu'il faut bien distingué. Et comme le texte du patriarche Zen que je lisais et qui disait que le chemin, le grand chemin n'est pas difficile pour quelqu'un qui n'a pas de préférence. N'avoir pas de préférence, c'est n'avoir pas de désir. Celui pour qui l'amour et la haine sont absents. Et donc, il parle d'avoir une vision dans le regard et d'une manière d'être dans lequel il n'y a pas la présence de l'amour et de la haine, il n'y a pas la présence de la préférence, du coup il n'y a pas le mouvement du désir. Pourquoi? Comment est-ce que ça s'applique en fait à notre réalité? Et ça c'est très intéressant, je pense, de se poser cette question-là. Et je pense que ça s'applique uniquement dans, par exemple, en méditation. En méditation, c'est très très important de comprendre ce que veulent dire ces phrases et ces enseignements. Par exemple, le fait d'être en méditation sans préférence, ça va permettre à l'esprit de se poser. Dès qu'on va avoir une préférence pour quelque chose, en fait, l'esprit va aller vers ou va rejeter. Et ça crée un mouvement. Ça crée en nous un mouvement qui nous permet plus de faire l'expérience de l'espace, du vide, dont on va faire l'expérience si on accepte la totalité de ce qui est là, mais sans aucune préférence, parce qu'on ne cherche rien. Et à ce moment-là, l'esprit peut se poser, sinon il y a une dynamique à l'intérieur. Ça j'aime, ça j'aime pas, ça j'en veux plus, ça je veux que ça s'arrête. Et en fait, même si on ne le sent pas, c'est ça qui initie des chemins de pensée qui nous amènent à des distractions. C'est le fait qu'il y a des préférences. S'il n'y avait aucune préférence, il n'y aurait pas de mouvement. Et donc on disait dans les discours précédents que si on est là et qu'on est posé et que l'esprit est sans mouvement, à ce moment-là, on est dans un état de sidération. de sidération. Et d'où, j'aimais beaucoup cette distinction que Frédéric Lenoir faisait, cette recherche qu'il a fait de l'étymologie du mot désir, qui vient de desiderare et qui veut dire désidérer. Et c'est-à-dire que ce qui va nous sortir de cet état dans lequel il n'y a plus de mouvement, ça va être le désir. C'est le désir qui va remettre en mouvement. Et donc c'est cette danse entre les deux. C'est de connaître et la remise en mouvement va automatiquement nous ramener dans un monde dans lequel il va y avoir des choix, des préférences, des importances, des décisions majeures en fait, en fonction de nos valeurs par exemple. Et là, on arrive dans un monde dans lequel automatiquement il y a de la souffrance. Automatiquement, il y a de la souffrance. Mais c'est la danse entre les deux, c'est la capacité de sortir complètement de l'histoire, en fait. Et puis d'y retourner sainement. C'est ça aussi beaucoup qu'on a exploré. C'est à partir du moment où on quitte la sidération, l'état de non-mouvement, les désirs vont être, et je me posais la question, et je nous posais la question, est-ce qu'il y a une pensée qui n'est pas née d'un désir? Est-ce qu'il y a une intention? Est-ce qu'il y a un mouvement? Est-ce qu'il y a une action qui n'est pas née quelque part d'un désir? Même du désir d'être vivant. Le Bouddha en parle aussi à un moment, de la cessation du désir d'être vivant ou d'être non vivant. Il parle de ça dans la méditation. Donc, est-ce que dans nos vies quotidienne, qui est quand même ce qu'on connaît le mieux et ce qui est le plus et ce pourquoi on est là et aussi ce pourquoi on médite, est-ce qu'il y a une seule chose, et c'est vraiment une question, hein, est-ce qu'il y a une seule chose qui n'est pas née d'un désir? Et en tout cas, moi, dans mon expérience, et je pense qu'on peut tous le voir, j'ai la certitude que au moins une grande majorité de ce que je pense, de ce que je ressens, de ce que je fais, vient d'un désir. Le désir est à la racine. D'où l'importance de connaître les désirs qui nous animent et de les raffiner. Parce que, et c'était fait état dans les autres discours aussi, ça vaut la peine d'être redit, le désir va créer aussi énormément d'injustices. Et toute forme de souffrance de nouveau, de souffrance intérieure comme la frustration, la sensation de manque, et puis qui va s'appliquer sur l'extérieur par des pressions sur une société, des pressions sur la nature, des pressions sur l'environnement. Et en fait, de nouveau, est-ce que toutes les grandes, vraiment les grandes injustices ne viennent pas de désirs qui ne mènent pas à une satisfaction plus profonde. Parce que la manière dont on vit, quand on suit des désirs qui ne sont pas suffisamment sains, j'ai envie de le dire comme ça, quand on suit des désirs qu'on sait un peu malsains, en fait, est-ce que la quantité d'humains qui suivent des désirs qui ne sont pas forcément des désirs avec suffisamment d'éthique et avec suffisamment de clarté et avec suffisamment de compréhension des implications pour nous-mêmes et pour autrui, est-ce que c'est pas ça qui crée tous les déséquilibres qu'on connaît dans le monde? D'où la nécessité de se poser la question, tiens, les désirs, nous, nos désirs, eh ben, quels sont-ils? Et pas forcément de faire un inventaire maintenant, dans le moment, mais plutôt d'essayer d'en être conscient dans notre quotidien. Qu'est-ce qui nous anime en fait? Au service de quoi est-ce qu'on fait ce mouvement? Au service de quoi est-ce qu'on a cette parole? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous pousse? C'est un sacré projet, évidemment, hein, parce que c'est à tous les niveaux de notre être. Hein, comme je le disais, du désir basique qui n'est même pas perceptible, du désir d'être vivant, jusque au désir de sexualité, au désir de manger, au désir de tout, de divertissement, tous les désirs en fait, tout. Désir de reconnaissance aussi, qui va nous faire. Le désir de reconnaissance, par exemple, à lui seul, va nous mettre énormément de pensées pour paraître d'une certaine manière, pour être vu d'une certaine manière. Déjà rien que ça, c'est un monde immense. Et c'est pas forcément qu'on ne devrait plus avoir de désir de reconnaissance, mais c'est d'être au courant, en fait, de ce qui initie nos paroles, vers qui on va, vers qui on ne va pas, et la manière dont on reçoit quelqu'un, la manière dont on se juge et dont on s'estime, hein, tout ça est quelque part ancré dans ce désir de reconnaissance, pour ne prendre que lui, désir de plaisir des sens. Donc la méditation et l'attention méditative, même dans notre quotidien, l'attention d'être conscient, nous permet de voir si on a les bonnes questions, parce qu'il faut aussi, voilà, il faut pas juste être présent, il faut être présent avec des questions, en fait, pour voir quelque chose. Et si on a les bonnes questions, ben on va commencer à voir d'où viennent les attentions, d'où sont initiés les mouvements. Et je pense que c'est la première démarche pour pouvoir trouver une certaine liberté par rapport à tout un tas de désirs qui nous font souffrir et qui font souffrir autrui et l'environnement. Il faut d'abord regarder et puis essayer de commencer à discerner. Vraiment, le discernement, là, c'est vraiment le mot-clé, en fait, de discerner quels sont les désirs qui mènent à plus de souffrance et quels sont les désirs qui mènent à plus de sagesse, quels sont les désirs qui mènent à une attitude qui est plus noble, qui respecte les vertus, qui respecte les valeurs que profondément on a tous en nous, en fait. Mais peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment connus. Elles ne sont pas en avant de notre esprit, elles ne sont pas tout le temps présentes à notre esprit. Et du coup, elles sont souvent bafouées, ces valeurs, par des désirs plus criards, plus addictifs, plus représentés aussi dans notre société, dans notre environnement, et qui du coup nous attrapent sans même qu'on ait conscience en fait qu'on va à l'encontre de nos appels profonds, de nos aspirations. Et comment et la grande question, et c'est la question qu'on se pose ici ensemble, c'est comment rétablir ça? Comment, je vois des têtes qui font oui. Alors, on sent bien que, bon voilà, il y a quelque chose qu'on vit tous. Et comment favoriser? Parce que c'est, même si on le voit, ça, le voir, c'est la première chose. On ne peut pas prendre des directions si on ne voit pas clairement. Mais même quand on voit, même quand on sait, c'est pas encore pour ça qu'on est capable. C'est pas encore pour ça qu'on y arrive à suivre, nos aspirations profondes et à renoncer, parce qu'il s'agit de renoncement, à renoncer à certains désirs et plaisirs qui finalement sont néfastes pour nous. Et en général, en plus, sont néfastes pour nous, mais sont néfastes pour tous les domaines de notre spiritualité, tous les domaines de notre recherche. Par exemple, le désir d'en reprendre quand on n'a plus faim, par exemple. Hein, je crois que je prends un exemple dans lequel je me sens bien concerné. Le désir d'en reprendre quand on n'a plus faim et de pas et où il y a une espèce de brouillard qui fait que oui, je sais que, mais en fait mes compréhensions profondes ne s'expriment pas vraiment et puis je me resserre et puis je mange et puis après je me rends. Éventuellement mes aspirations reviendront, mais là elles ont été couvertes pendant un temps. Mais ça en fait c'est un désir qui mène à de la souffrance, à de la souffrance pour mon corps. Hein? En fait, il ne satisfait qu'une partie de mon être pendant un moment déterminé. Donc, je pense que il y a une différence entre le désir et la joie, peut-être aussi, on doit faire. Parce que le désir, pour moi, le désir et les plaisirs, pas tous les plaisirs, mais en tout cas les plaisirs, c'est ça qu'il faut distinguer, c'est quels sont les plaisirs qui vont ne satisfaire qu'une partie de mon être pendant juste un moment. Et ceux-là, peut-être, il faut essayer de les mettre en lumière, de les remettre en question. Par exemple, si je vais trop manger, ben déjà juste après, ça va pas être très confortable. Peut-être, dans le moment, il y a eu une sensation de plaisir, qui est très, peut-être même qui ramène un petit contact avec de la joie. On essaiera de faire la distinction après. Mais quoi qu'il en soit, ça va vite s'arrêter, parce qu'après d'avoir trop mangé, c'est pas agréable. Ouais, souvent, je vais me sentir lourd, par exemple. Je peux avoir même maintenant que j'ai passé les 50 ans, je peux même avoir la digestion compliquée. Et je dis pas que c'est pour tous les gens qui ont passé 50 ans, mais dans mon cas, en tout cas, je peux avoir des moments où ma digestion est compliquée, et je le savais quelque part. Donc, en fait, j'ai pas respecté mon corps. Mais j'ai pas respecté non plus mes valeurs profondes au niveau de l'éthique. Parce que quand je mange plus que ce dont j'ai besoin aussi, bah tout ça, c'est je consomme ce qui est produit sur une, sur la planète. En fait, je manque de respect par rapport, je n'en ai pas conscience évidemment, mais si on regarde clairement, c'est un manque de respect et de révérence pour ce que la planète produit pour nous nourrir. Et puis aussi au niveau de la justice sociale. Hein, si tout le monde se mettait à manger plus, il n'y a pas assez pour tout le monde. Donc il faut quelque part être à même en fait de respecter ce qui nous est imparti et de trouver du bonheur avec moi, de manière à ce que tout le monde puisse trouver ce bonheur. Et je ne respecte pas mes aspirations spirituelles, comme la capacité d'une certaine maîtrise, par exemple. Hein, j'aimerais avoir une certaine maîtrise, et dans ce moment-là, je ne respecte pas. Donc en fait, et ça, c'est, je trouve quelque chose qui est très beau, et heureusement, et où on a beaucoup de chance, et où la nature est bien faite, c'est que tout va dans le même sens. C'est-à-dire que quand on prend une décision, par exemple, de rééquilibrer la manière dont on s'alimente, ça va être bon pour notre corps, ça va être bon pour notre spiritualité, ça va être bon pour le fonctionnement de notre esprit, ça va être bon pour nos amis, ça va, parce qu'on va pas se resservir plus que ce qu'il y a pour tout le monde, ça va être bon pour la justice sociale de notre environnement et de la planète, ça va être bon pour l'écologie, ça va être bon pour le climat. En fait, c'est super parce que si ça serait compliqué, imaginez que ça soit par exemple bon pour notre corps, bon pour notre esprit, mais mauvais pour la planète et mauvais pour le climat. Ben, on serait dans un cul-de-sac en fait. Mais c'est pas dans ce sens-là que ça va. Si on regarde bien la mécanique, ce qui est bon pour le climat, ce qui est bon pour la planète, ce qui est bon pour la justice sociale, c'est aussi ce qui est bon pour notre spiritualité profonde, c'est ce qui est bon pour la paix de l'esprit. Et c'est ce qui est bon pour notre santé, ça va tout dans le même sens. C'est magnifique, heureusement. Heureusement, mais on ne le voit peut-être pas comme ça. Et tout le monde ne le comprend pas comme ça. Il y a cette croyance que ce qui est bon pour moi, ça va être d'avoir ceci, d'avoir ce, et puis, même si c'est pas bon pour les autres, c'est pas grave parce que c'est bon pour moi. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas bon pour nous non plus. C'est une confusion. Et quand on est pris par des désirs de plus en plus grands, c'est ce que Rumi nous disait, le discernement s'enfuit loin de celui qui est ivre de vains désirs. Le discernement s'enfuit loin de celui qui est ivre de vains désirs. Donc ça veut dire que quand on est pris par trop de vains désirs, on ne voit plus qu'en fait, on ne se fait pas du bien à nous-mêmes et on ne fait pas du bien à tout ce qui est extérieur à nous-mêmes. C'est un même mouvement. Et celui qui est ivre de vains désirs est comme ce démon affamé qui n'arrivera jamais vraiment à se nourrir. C'est-à-dire trouver la sensation d'apaisement qu'il cherche à travers ce mouvement du désir constant et toujours en augmentation constante. Eh bien, ça ne sera pas trouvable. Et donc, personne crée sa propre souffrance et crée la souffrance du monde. Et on est tous là quelque part. On est tous là quelque part. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est déjà dans les discours du Bouddha, il y a 2500 ans, c'était la même chose. Et de plus, nous, on est nés dans un monde dans lequel le désir est devenu, stimuler le désir est devenu presque une manière d'être un fonctionnement de société. De stimuler le désir à ce principe de croissance de la consommation, par exemple. C'est juste ça. C'est juste ça. Plus on a, plus on est heureux. Donc, voilà. Toutes ces questions-là, c'est de les porter, de les vivre et de regarder au moment où on est aux prises avec le désir. Hein, vous savez, quand le désir nous prend, là, quelque part, on le sait, on n'arrive pas à avoir une clarté énorme. C'est difficile, quand on est pris par un désir, de vraiment dire, OK, je vais me poser. Je vais regarder mon désir un petit peu, et puis après on verra bien ce qui se passe. Ça, c'est l'idéal. Mais souvent, c'est tellement fort, enfin, c'est bouillant parfois le désir, qu'on a une confusion d'esprit qui nous empêche de nous poser, de regarder un petit peu, et puis de laisser éventuellement, quitte à aller vers le désir après, la satisfaction du désir. Donc, on a bien compris que l'observation est ramenée de la conscience dans les moments où on est pris par le désir. L'observation est ramenée de la conscience dans ce qui nous met en mouvement va être nécessaire pour avoir une certaine clarté. Ben, on a bien compris aussi que même avec cette clarté, ben, ça serait pas forcément suffisant, en fait, pour que la transformation puisse se faire. C'était ça le modèle du déficit d'information qui, où à un moment on pensait qu'en donnant suffisamment d'informations à une personne, elle allait pouvoir prendre les bonnes décisions. Et là, maintenant, on sait que même quand on a suffisamment d'informations, quand on sait que fumer tue, par exemple, c'était l'exemple que je prenais, c'est pas pour ça qu'on s'arrête de fumer. C'est pas suffisant pour nous donner forcément. Juste savoir n'est pas suffisant pour nous donner l'énergie du changement. Alors, quels sont les moyens à notre disposition pour stimuler le changement? Et on en a déjà visité quelques-uns, comme, là je viens de l'aborder, le fait de conscientiser nos aspirations profondes. C'est-à-dire leur donner de l'importance, c'est-à-dire les cultiver, c'est-à-dire leur donner de l'attention. Et ça, en méditation, ou c'est ça aussi la prière, on pourrait décider en fait de se faire une prière en qui contiendrait tout ce qui est le plus important pour nous, et puis d'une manière ou d'une autre se le répéter, que ce soit qu'on ait l'impression de demander à une instance extérieure, une instance intérieure, à la vie ou quoi que ce soit, ça n'a pas vraiment d'importance, mais juste de se répéter ce qui est important pour nous. Ou comme on l'a fait dans une méditation, de prendre le temps pendant la méditation c'est entre réfléchir et sentir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, et puis de laisser devenir à l'avant de notre esprit et de lui donner de l'attention, de manière à ce qu'on s'en rappelle plus aisément dans les moments où on est pris par le côté bouillant du désir. On se rappelle, ah oui, mais il y a ça aussi qui est important pour moi. Sinon, il n'émerge pas, parce que quelque part, on le sait, mais on ne le fait jamais apparaître dans notre quotidien. Là, le faire apparaître nos intentions profondes dans notre quotidien, les laisser être dans notre esprit suffisamment longtemps, se les rappeler encore et encore et encore. Ça va aider. Alors, pour ceux qui ont la pratique de la conscience de la permanence, qui est aussi une très très belle pratique, où on apprend à voir dans nos méditations que tout change, eh bien, ça peut aider à décrocher la croyance que si j'ai ça, alors je vais être heureux. Parce qu'on sait que il va y avoir un moment peut-être de satisfaction. Et souvent, je le disais aussi, mais la satisfaction, c'est pas la satisfaction. Genre, si je désire un bout de chocolat et que vraiment ça devient un truc qui me tourne dans la tête et tout, la plus grande satisfaction, ça va pas être le bout de chocolat, ça va être la sensation de la frustration de ne pas avoir le bout de chocolat. C'est un peu fou quand même. C'est un peu fou que le plus grand plaisir va être que le désir du bout de chocolat s'arrête. Et pourtant, ça va être un mix, le chocolat aussi, ça va être sympa. Mais, parfois, c'est même pas ça le plus agréable. Le plus agréable, c'est que cette sensation de frustration et de ce truc qui hijack, là, qui attrape mon attention et qui fait que je peux pas penser à autre chose et ça revient tout le temps et je me sens pas bien avec ça, je me sens frustré et tout. Je prends le bout de chocolat. Ah, ça s'arrête. Et donc, de savoir, en fait, que la permanence, c'est dans le sens où ce désir, j'investis dedans comme s'il allait m'amener la joie ultime, alors qu'en fait, ça va être très court. C'est ça la permanence. Et puis après, au final, ça n'aura pas amené cette joie et cette satisfaction profonde que je cherche. C'est donc aussi la conscience, en fait, de savoir qu'on cherche quelque chose. Je pense que c'est ça, en fait, la pratique spirituelle aussi, c'est la conscience que ce qu'on cherche ne se trouve pas et ne se trouvera pas dans la satisfaction des désirs. En tout cas, pas des désirs qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Allons-y avec précaution. C'est vraiment cette sensation et cette conscience, en fait, qu'on cherche tout à fait autre chose, que la joie qu'on cherche ne va pas être due à quelque chose d'impermanent. Le fait d'investir ma sensation de joie ou de sécurité dans quelque chose qui ne dure pas. On a vu aussi que pour ceux qui en ont la pratique, la conscience de la mort, et ça, c'est pas une pratique qui va se faire juste face au bout de chocolat. ça marche pas d'avoir un bout de chocolat, d'avoir trop envie de manger de chocolat et de dire, bah, de toute façon, un jour, je vais mourir. Ah, peut-être même faire l'inverse. Moi, alors, je m'en fous, je vais prendre le bout de chocolat. La conscience de la mort, c'est plutôt dans une pratique de réflexion et de méditation, ramener, en fait, la conscience de notre finitude. Et ça va nous amener à avoir une attitude différente, à une manière différente de vivre, dans laquelle on va se dire, parce qu'en fait, ce qu'on sent quand on sait vraiment en profondeur qu'un jour on va mourir, ce qui est très long à apprendre, hein, ce qu'on sait, plus on sait en fait qu'on va mourir, plus on sent une espèce déjà d'urgence à incarner nos valeurs profondes. Parce qu'on va dire le jour où on va arriver face à notre mort, on va dire, putain, c'est trop con quand même. J'ai raté l'occasion de ce que je sens être la plus belle manière de vivre. Je me suis fait manipuler par une superficialité. Ah, c'est ça qu'on risque de sentir. Et quand on a conscience en fait de la mort, eh ben on va avoir moins la tendance du plaisir facile. Quand le plaisir facile va être en contradiction avec nos valeurs profondes. Alors, comme je le disais, bien sûr, voir les causes de la, voir qu'est-ce qui cause l'insatisfaction et qu'est-ce qui cause l'insatisfaction. Quelles sont les causes de la joie? Quelles sont les causes de la tristesse? Quelles sont les causes de la souffrance? Une clarté. C'est étonnant, mais on peut vivre en ayant des attitudes qui nous créent de la souffrance, qui créent de la souffrance autour de nous et tout ça, et vivre toute une vie sans en être vraiment conscient, en fait. On est conscient dans une certaine mesure, mais il y en a plein, on n'en est pas du tout conscient. Si on n'y regarde pas, on ne le saura jamais. C'est pas simplement des actions, c'est aussi des manières de penser. Il y a des manières de penser qui créent de la souffrance. Quelles sont nos manières de penser? Par exemple, de nouveau, si on reprend un désir de succès, par exemple. On peut être habité d'un désir de succès ou d'un désir de fame, d'être connu, ou des choses comme ça, ou qui toujours en lien avec le désir de reconnaissance, et ça peut générer énormément de pensées qui créent de la souffrance et de la manipulation à l'extérieur. Donc ça, ce sont des désirs qui créent de la souffrance, qui créent de l'insatisfaction, qui ne nous permet pas de nous poser dans cette vie. Et il y a quelques jours, un ami me lisait un texte de Spinoza, du coup, qui se pose un peu ces questions-là dans son langage. Voilà, et ça a amené mes réflexions aussi dans une direction dans laquelle je n'avais pas encore été. Et je vous le lis. Donc c'est dans ces réflexions, en fait, autour du désir, du plaisir, de la joie, de comment être heureux. Je m'aperçois ici avec étonnement que le seul moyen de se libérer d'un attachement est d'être dans la joie. La joie n'est donc pas seulement le but à atteindre, elle est aussi le chemin qui mène au bonheur. Parce qu'elle seule peut nous libérer de notre attachement au plaisir. Quand il nous dit que c'est la joie qui peut nous libérer de l'attachement au plaisir. La joie est ainsi bonne en elle-même, beaucoup plus d'ailleurs que le plaisir. Plus je vivrai dans la joie, moins je serai dépendant des plaisirs. Donc là, dans ce questionnement qu'on regardait ici, voilà encore une autre avenue à cultiver, c'est de cultiver la joie. Donc, et on va se poser la question de, tiens, qu'est-ce que c'est cultiver la joie et comment est-ce qu'on cultive la joie? Mais on comprend, en tout cas pour moi, ça sonne juste que la joie est une nécessité pour ne pas être envahi par la croyance que la satisfaction des désirs superficiels va m'amener au bonheur. À partir du moment où je fais l'expérience d'une bonne dose de joie quotidienne, je vais être moins envahi par une criel de désirs superficiels et malsains. Donc je sens qu'il y a une justesse là-dedans. Même si lui il dit c'est La seule manière, et voilà, moi je n'ai pas l'impression que c'est la seule manière. Comme je le disais, par exemple, la conscience de la mort en est une autre pour moi, qui va d'ailleurs aussi ramener de la joie, parce que tout ça est interconnecté. Rien de tout ça, ça c'est encore quelque chose de fantastique. Et pour l'enseignement aussi, c'est incroyable, mais pour la pratique, c'est réussir à mettre tout en lien, parce que tout est une seule et même chose. Bouddha disait, je n'enseigne qu'une seule et même chose. Je n'ai jamais enseigné deux choses. Parce que tout est en lien. Et donc, même si la conscience de la mort, par exemple, va ramener de la joie. Donc, cultiver la joie, ben, ça va être pareil que tout ce qu'on disait avant, toutes les autres manières de cultiver la capacité de résister au désir ou de ne pas être envahi par le désir. C'est un thème complexe, hein. Ça fait une cartographie là dans l'esprit. Cultiver la joie, cultiver la joie. Alors quand on se pose la question, cultiver la joie, ben déjà pour moi, tout de suite, ce que ça m'a fait, c'est prendre le temps de voir le beau. Ça, c'est cultiver la joie. Ça veut dire que si on prend le temps de voir ce qui est beau, que ça soit dans la nature, parce que c'est là qu'il y en a beaucoup, ou dans l'art, ou dans les gens qui nous côtoient, voir le beau dans chaque personne qu'on croise, incliner notre esprit vers ce qui est beau va amener un type de satisfaction qui va nous dégager de l'emprise du désir. Ou va amener, pour le dire autrement et peut-être mieux, va amener nos désirs à être beaucoup plus profonds et beaucoup plus encore en accord avec nos aspirations. Voir le beau va transformer la nature de nos désirs pour des désirs moins pressants et plus universels, moins égocentriques. C'est quelque chose quand on comprend. Après, il faut suffisamment de pleine conscience de sortir de nos pensées et se dire, ah oui, tiens, je suis pris dans mes pensées là. Plutôt que de rester dans mes pensées, est-ce qu'il y a quelque chose de beau à voir autour de moi? Ou en moi? Qu'est-ce que je pourrais observer de beau? Et là, ouvrir les yeux et voir, il y a peut-être quelque chose de beau, ou il y a une personne qui est là, qui a, voilà, on peut, voir le beau, ça va automatiquement dire sentir la connexion aussi, se sentir connecté à la beauté, à une personne, à... Mais se tourner vers le beau va ramener de la joie. Et puis, pour moi, une autre attitude de l'esprit qui est importante à cultiver, qui vient compléter, et je le disais, c'est vraiment pas exhaustif, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement d'approches, mais une qui m'est chère, c'est cultiver la gratitude. Cultiver la gratitude ramène énormément de joie, ramène énormément de joie. Et vivre sans gratitude, c'est la définition de la souffrance. Donc cultiver la gratitude, ça se cultive, la gratitude, c'est quelque chose qu'on peut cultiver. Elle ne vient pas forcément d'elle-même. C'est de nouveau incliner notre esprit vers le fait de voir la chance d'avoir, par exemple, un corps qui fonctionne suffisamment bien. La gratitude envers le corps. Très important. De temps en temps, par exemple, moi ça va m'arriver, je vais prendre un objet et puis je vois ce mouvement du bras, les rotations, c'est sûr, ça c'est quelque chose qui peut vous arriver, ou un corps qui marche, mon corps qui marche, je suis en montagne, je monte, et à un moment je fais waouh, c'est incroyable, ça va avec l'étonnement, c'est incroyable, et du coup de dire merci. Merci, qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir ce corps qui fonctionne. Et souvent, les petits dysfonctionnements, ça aide. Tant qu'on n'a pas de dysfonctionnement, on a l'impression que c'est normal que tout aille bien. Et puis, quand ça commence un peu à foirer à gauche et à droite, du coup, ça met un peu en valeur tout ce qui va encore bien. Et de vivre avec ça et de vivre avec waouh, qu'est-ce que j'ai de la chance encore de pouvoir marcher dans la montagne, qu'est-ce que j'ai encore de la chance de pouvoir avoir l'usage de mes bras, d'avoir ce corps, qu'est-ce que j'ai la chance pour le moment de ne pas éprouver de douleur. Ça arrive, on peut avoir de la gratitude pour le fait que dans ce moment, je n'éprouve pas de douleur. Cultiver la gratitude au moment où on mange. Qu'est-ce que j'ai de la chance, en fait, d'avoir tout ce qu'il y a dans mon assiette, là. Et c'était quelque chose qui venait dans les prières avant, dans notre tradition, hein, de remercier. De remercier et même de manger en silence, de manière à vraiment apprécier. Parce que la gratitude nous amène à apprécier. Et sinon, parce que si on n'a pas ça, en fait, manger, ça devient un acte technique. Parce qu'il faut nourrir le corps entre deux activités. Et alors là, elle est où la joie? Il est où le sens? On vit sans sens, alors on vit sans joie. La gratitude, pour moi, c'est une avenue pour retrouver du sens, pour retrouver quelque chose de vivant, pour retrouver de la connexion. Donc c'est des choses on peut parfois moi quand j'entends des discours comme ça je me dis oh là là il y a tout ça et puis il y a ça et puis mais déjà on peut pas retenir et être capable d'incarner tout ça mais dans un discours quand il y a quelque chose qui nous touche je pense qu'il faut saisir deux trois trucs et dire ça je le veux voilà. Et il faut que ça du désir. Là, voilà justement un bon désir, un désir sain. Je désire vivre plus de gratitude dans mon quotidien. Ben, ce désir-là, voilà un bon désir. Voilà un désir auquel il faut s'attacher. Il ne faut pas du détachement, là, par rapport à ce désir-là. Il faut de l'attachement à ce désir-là. Mais de se rappeler, si ça vous parle, de se rappeler, de revenir à la gratitude pour tout ce qui fonctionne, à la gratitude pour tout ce qu'on a, la gratitude d'avoir une voiture. Moi, combien de fois, l'étonnement. De pouvoir avoir un engin pareil, parfois ça me, je trouve ça énorme en fait d'avoir une voiture. Et enfin, je trouve ça incroyable. Et du coup, je me sens privilégié, je sens et je remercie. Boire un verre d'eau, bien sûr. C'est peut-être là qu'on pourrait commencer pour les choses simples. Parce que si je me dis si on a suffisamment de gratitude pour les choses simples, alors on a du plaisir au moment où elles sont là, et c'est hyper nourrissant. Alors on a besoin de moins de choses pour arriver à un état de joie, de satisfaction, de bonheur. Et peut-être pour achever cette première partie du discours, encore. Une des nombreuses possibilités que on peut essayer de développer, s'il y a une raison pour vous, pour amener de la joie. S'il y a énormément de joie à trouver, si on arrive à se réjouir du bonheur des autres. Ben et c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup dans notre culture, mais c'est vraiment de réussir à. C'est un contre-mouvement, en fait, par rapport à l'envie et la jalousie. Qui, eux, l'envie et la jalousie, en fait, nous dévorent. De la réussite des autres, ou de ce qu'ils possèdent, ou quand ils ont un moment de chance, ou quelque chose comme ça. Et c'est de, en fait, de sentir une joie véritable pour la chance qu'il a. Et de faire, ah, oh, je suis trop content qu'il ait cette chance. Et si on sent ça, alors c'est facile de trouver des moments de joie parce qu'il y a toujours bien quelqu'un qui a de la chance autour de nous et qu'on en vit et on peut aller chercher ce goût de la joie en fait. On peut vivre de la joie. Et en même temps, ça éteint l'envie et la jalousie qui détruisent énormément en nous déjà, c'est très désagréable hein, d'être envieux ou jaloux. Et en même temps, ça fait pas des bons résultats dans nos relations. Et tout ça. Puisque le thème, c'est la danse du désir, va faire que nos désirs vont être profondément affectés et vont devenir des désirs beaucoup plus universels qui vont aller vers le respect d'une humanité commune plutôt que d'avoir ces désirs qui, quand ils vont à l'extrême, rendent tellement aveugles qu'on peut croire que moi, en ayant ça, je vais être heureux, même si tout le monde autour de moi est malheureux à cause du fait que je vais chercher ça. Cet aveuglement, en fait. Je vais arrêter là cette première partie du discours. Merci pour votre écoute.
Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.